Un commencement de piste se présentait. L'assassinat avait eu lieu aux environs de Gaillon. Le jour même, il se rendit dans cette ville. Certes, il n'espérait point reconstituer un crime perpétré 200 ans auparavant. Mais tout de même, il est certain forfait qui laisse des traces dans les souvenirs, dans les traditions du pays. Les chroniques locales les recueillent. Un jour, tel érudit de province, tel amateur de vieilles légendes, tel évocateur des petits incidents de la vie passée, en fait l'objet d'un article de journal ou d'une communication à l'académie de son chef-lieu. Il en vit 3 ou 4 de ces érudits. Avec l'un d'eux surtout, un vieux notaire, il fureta, il compulsa les registres de la prison, les registres des anciens bailliages et des paroisses. Aucune notice ne faisait allusion à l'assassinat d'un capitaine des gardes au XVIIe siècle. Il ne se découragea pas et continua ses recherches à Paris, où peut-être avait eu lieu l'instruction de l'affaire. Ses efforts n'aboutirent pas. Mais l'idée d'une autre piste le lança dans une direction nouvelle. Était-il impossible de connaître le nom du capitaine des gardes dont le petit-fils émigra et dont l'arrière-petit-fils servit les armées de la République et fut détaché au temple pendant la détention de la famille royale, servit Napoléon et fit la campagne de France? À force de patience, il finit par établir une liste où 2 noms, tout au moins, offraient une similitude presque complète. Monsieur de Larbéry, sous Louis XIV, le citoyen Larbry, sous la Terreur. C'était déjà un point important. Il le précisa par un entrefilet qu'il communiqua aux journaux, demandant si on pouvait lui fournir des renseignements sur ce Larbéry ou sur ses descendants. Ce fut Monsieur Massiban, le Massiban de la brochure, le membre de l'Institut, qui lui répondit.
« Monsieur, je vous signale un passage de Voltaire que j'ai relevé dans son manuscrit du siècle de Louis XIV, chapitre 25, particularité et anecdote du règne. Ce passage a été supprimé dans les diverses éditions. J'ai entendu conter à feu Monsieur de Caumartin, intendant des finances et ami du ministre Chamillard, que le roi partit un jour précipitamment dans son carrosse à la nouvelle que Monsieur de Larbéry avait été assassiné et dépouillé de magnifiques bijoux. Il semblait dans une émotion très grande et répétait « Tout est perdu, tout est perdu ». L'année suivante, le fils de ce Larbéry et sa fille, qui avaient épousé le marquis de Vélines, furent exilés dans leurs terres de Provence et de Bretagne. Il ne faut pas douter qu'il y ait là quelques particularités. Il faut en douter d'autant moins, ajouterai-je, que M. Chamillard, d'après Voltaire, fut le dernier ministre qui eut l'étrange secret du masque de fer. Vous voyez, monsieur, le profit que l'on peut tirer de ce passage et le lien évident qui s'établit entre les 2 aventures. Je n'ose, quant à moi, imaginer des hypothèses trop précises sur la conduite, sur les soupçons, sur les appréhensions de Louis XIV en ces circonstances. Mais n'est-il pas permis, d'autre part, puisque M. de Larbéry a laissé un fils qui fut probablement le grand-père du citoyen officier Larbry et une fille, n'est-il pas permis de supposer qu'une partie des papiers laissés par Larbéry ait échu à la fille et que parmi ces papiers se trouvait le fameux exemplaire que le capitaine des gardes sauva des flammes? J'ai consulté l'annuaire des châteaux. Il y a aux environs de Rennes un baron de Vélines. Serait-ce un descendant du marquis? À tout hasard, hier, j'ai écrit à ce baron pour lui demander s'il n'avait pas en sa possession un vieux petit livre dont le titre mentionnerait ce mot de l'aiguille. J'attends sa réponse. J'aurai la plus grande satisfaction à parler de toutes ces choses avec vous. Si cela ne vous dérange pas trop, venez me voir. Agréé, monsieur, etc. Post-scriptum. Bien entendu, je ne communique pas aux journaux ces petites découvertes. Maintenant que vous approchez du but, la discrétion est de rigueur. »
C'était absolument l'avis de Beautrelet. Il alla même plus loin. Deux journalistes le harcelant ce matin-là, il leur donna les informations les plus fantaisistes sur son état d'esprit et sur ses projets. L'après-midi, il courut en hâte chez Massiban, qui habitait au numéro 17 du quai Voltaire. À sa grande surprise, il apprit que Massiban venait de partir à l'improviste, lui laissant un mot au cas où il se présenterait. Isidore Descacheta élut.
« Je reçois une dépêche qui me donne quelque espérance. Je pars donc et coucherai à Rennes. Vous pourriez prendre le train du soir et, sans vous arrêter à Rennes, continuer jusqu'à la petite station de Vélines. Nous nous retrouverions au château, situé à 4 kilomètres de cette station. »
Le programme plut à Beautrelet, et surtout l'idée qu'il arriverait au château en même temps que Massiban, car il redoutait quelques gaffes de la part de cet homme inexpérimenté. Il rentra chez son ami et passa le reste de la journée avec lui. Le soir, il prenait l'express de Bretagne. À 6 heures, il débarquait à Vélines. Il fit à pied, entre des bois touffus, les 4 kilomètres de route. De loin, il aperçut sur une hauteur un long manoir, construction assez hybride, mêlé de Renaissance et de Louis-Philippe, mais ayant grand air tout de même, avec ses 4 tourelles et son pont-levis emmailloté de lierre. Isidore sentait son cœur battre en approchant. Touchait-il réellement au terme de sa course? Le château contenait-il la clé du mystère? Il n'était pas sans crainte. Tout cela lui semblait trop beau, et il se demandait si, cette fois encore, il n'obéissait pas à un plan infernal combiné par Lupin, si Massiban n'était pas, par exemple, un instrument entre les mains de son ennemi. Il éclata de rire.
« Allons, je deviens comique. En croirait vraiment que Lupin est un monsieur infaillible qui prévoit tout, une sorte de dieu tout-puissant contre lequel il n'y a rien à faire. Que diable! Lupin se trompe. Lupin, lui aussi, est à la merci des circonstances. Lupin fait des fautes. Et c'est justement grâce à la faute qu'il a faite en perdant le document que je commence à prendre barre sur lui. Tout découle de là. Et ses efforts, en somme, ne servent qu'à réparer la faute commise. »
Et joyeusement, plein de confiance, Beautrelet sonna.
« Monsieur Désir ?»
dit un domestique apparaissant sur le seuil.
« Le baron de Vélines peut-il me recevoir ?»
Et il tendit sa carte.
« Monsieur le baron n'est pas encore levé, mais si monsieur veut l'attendre... »«
Est-ce qu'il n'y a pas déjà quelqu'un qui l'a demandé ? Un monsieur à barbe blanche, un peu voûté ?»
fit Beautrelet, qui connaissait Massiban par les photographies que les journaux avaient données.
« Oui, ce monsieur est arrivé il y a 10 minutes. Je l'ai introduit dans le parloir. Si monsieur veut bien me suivre également ?»
L'entrevue de Massiban et de Beautrelet fut tout à fait cordiale. Isidore remercia le vieillard des renseignements de premier ordre qu'il lui devait, et Massiban lui exprima son admiration de la façon la plus chaleureuse. Puis ils échangèrent leurs impressions sur le document, sur les chances qu'ils avaient de découvrir le livre, et Massiban répéta ce qu'il avait appris relativement à M. de Vélines. Le baron était un homme de 60 ans qui, veuf depuis de longues années, vivait très retiré avec sa fille, Gabrielle de Villemont, laquelle venait d'être cruellement frappée par la perte de son mari et de son fils aîné, mort des suites d'un accident d'auto.
« Monsieur le baron fait prier ces messieurs de vouloir bien monter. »
Le domestique les conduisit au premier étage, dans une vaste pièce aux murs nus et simplement meublée de secrétaires, de casiers et de tables couvertes de papiers et de registres. Le baron les accueillit avec beaucoup d'affabilité et ce grand besoin de parler qu'ont souvent les personnes trop solitaires. Ils eurent beaucoup de mal à exposer l'objet de leur visite.
Ah oui, je sais. Vous m'avez écrit à ce propos, monsieur Massiban. Il s'agit, n'est-ce pas, d'un livre où il est question d'une aiguille et qui me viendrait d'un ancêtre ?
En effet,
Je vous dirai que mes ancêtres et moi, nous sommes brouillés. On avait de drôles d'idées en ce temps-là. Moi, je suis de mon époque. J'ai rompu avec le passé.
Oui, objecta Beautrelet impatienté. Mais n'avez-vous aucun souvenir d'avoir vu ce livre ?
Oh, mais si, je vous l'ai télégraphié,
s'écria-t-il en s'adressant à Massiban, qui, agacé, allait et venait dans la pièce et regardait par les hautes fenêtres.
Mais si, ou du moins, il le semblait à ma fille qu'elle avait vu ce titre parmi les quelques milliers de bouquins qui encombrent la bibliothèque. Car pour moi, messieurs, la lecture, je ne lis même pas les journaux. Ma fille, quelquefois, et encore, pourvu que son petit Georges, le fils qui lui reste, se porte bien, et pourvu, moi, que mes fermages rentrent, que mes baux soient en règle. Vous voyez mes registres, je vis là-dedans, messieurs, et j'avoue que j'ignore absolument le premier mot de cette histoire dont vous m'avez entretenu par lettre, monsieur Massiban.
Isidore Beautrelet, horripilé par ce bavardage, l'interrompit brusquement. « Pardon, monsieur, mais alors ce livre ?»«
Ma fille l'a cherché. Elle le cherche depuis hier. »«
Eh bien ?»«
Eh bien, elle l'a retrouvé. Elle l'a retrouvé il y a une heure ou deux. Quand vous êtes arrivé ?»«
Et où est-il ?»«
Où il est ? Mais elle l'a posé sur cette table. Tenez, là-bas. »
Isidore bondit. Au bout de la table, sur un fouillis de paperasse, il y avait un petit livre recouvert de maroquin rouge. Il y appliqua son poing violemment, comme s'il défendait que personne au monde y touchât. Et un peu aussi, comme si lui-même n'osait le prendre.
« Eh bien !» s'écria Massiban tout ému.
« Je l'ai ! Le voilà ! Maintenant, ça y est !»«
Mais le titre, êtes-vous sûr ?
Et parbleu, tenez !» Il montra les lettres d'or gravées dans le maroquin. « Le mystère de l'aiguille creuse. »« Êtes-vous convaincu ? Sommes-nous enfin les maîtres du secret ?»«
Là, la première page. Qu'y a-t-il en première page ?»«
Lisez. Toute la vérité dénoncée pour la première fois. 100 exemplaires imprimés par moi-même et pour l'instruction de la cour. »«
C'est cela, »
murmura Massiban, la voix altérée.
« C'est l'exemplaire arraché aux flammes. » C'est le livre même que Louis XIV a condamné.
Ils le feuilletèrent. La première moitié racontait les explications données par le capitaine de l'arbrerie dans son journal. « Passons, passons !» dit Beautrelet, qui avait hâte d'arriver à la solution.
« Comment passons ? Mais pas du tout. Nous savons déjà que l'homme au masque de fer fut emprisonné parce qu'il connaissait et voulait divulguer le secret de la maison royale de France. Mais comment le connaissait-il ? Et pourquoi voulait-il le divulguer ? Enfin, quel est cet étrange personnage ? Un demi-frère de Louis XIV, comme l'a prétendu Voltaire, ou le ministre italien Maccioli, comme l'affirme la critique moderne ? À Bigre, ce sont là des questions d'un intérêt primordial.
« Plus tard, plus tard !» protesta Beautrelet, comme s'il avait peur que le livre ne s'envolât de ses mains avant qu'il ne connût l'énigme.
« Mais, objecta Massiban, que passionnaient ces détails historiques, « nous avons le temps. Après, voyons d'abord l'explication. »